Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Aujourd'hui, c'est Parole d'éditeur, une nouvelle émission dont la vocation est de vous faire partager le métier d'éditeur après vous avoir illustré, en recevant des auteurs, celui d'auteur, justement. Cette émission vient en complément de l'émission Parole d'auteur pour participer à la promotion du livre et de la lecture. Le choix délibéré de présenter des éditeurs indépendants, que l'on appelle souvent un peu par défaut les petits, la manière dont ils vivent la profession, la manière dont ils l'exercent, leurs difficultés, leurs joies et leurs succès, leur vision de l'avenir et leurs ambitions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Poite, fondateur et directeur de la maison d'édition Un Autre Regard, installée à Albi. Restez à l'écoute, vous allez découvrir les coulisses d'une maison d'édition indépendante. Bonjour Jérôme Poite.
Bonjour.
Bienvenue à Parole d'éditeur. Nous avons le plaisir et l'honneur de faire cette émission avec vous. C'est l'émission numéro 2 de la série Parole d'éditeur. Voilà. Nous avions reçu auparavant une maison d'édition toulousaine qui fonctionne sous forme d'association qui s'appelle les éditions Osas, que vous connaissez peut-être.
Tout à fait.
Voilà. Donc merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je salue nos fidèles auditeurs et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Jérôme Poite, vous êtes venu avec... Nous avions prévu 2 livres, mais vous avez prévu d'en amener 3. Alors, est-ce que vous pourriez nous les citer ?
Oui, bien sûr. Un roman d'Augustine Meursault qui s'appelle « Les caresses du vide », qui est paru au mois d'octobre dernier. Un beau livre dans une collection qui s'est pas mal développée dans notre maison d'édition et qui s'appelle « Patrimoine et territoire ». Et donc un opus qui est consacré au département du Tarn-et-Garonne. Et un autre roman, une autofiction de Salia Sadek, qui s'appelle donc « La fugue de l'oranger ».
Alors nous allons revenir en cours d'émission plus en détail sur ces 3 ouvrages. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une première question qui nécessiterait à la fois... une réponse courte ou une réponse très développée, donc vous choisirez. Est-ce que éditeur, c'est une vocation ou un créneau de business?
Je pense que ça peut être assez court à répondre parce qu'assez évident, c'est évidemment une vocation, particulièrement dans mon cas, parce que je ne connaissais pas le terme d'éditeur quand j'avais 7-8 ans. Mais c'est à peu près à cet âge-là que je me suis dit, quand je serai grand, je veux faire des livres.
Ah, si jeune.
Je ne savais pas encore vraiment sous quelle forme, mais c'est à peu près, oui, au milieu du primaire, je dirais, que mon amour des livres a émergé. Voilà.
Donc ce qui signifie en clair que très jeune, vous êtes plongé, vous étiez passionné de lecture.
Tout à fait. Je passais mon temps avec un livre à la main, mais surtout déjà j'en faisais. Je passais beaucoup de temps à écrire des petites histoires, à les mettre en page et à faire des petits dessins qui allaient avec, etc.
Et alors donc cette passion pour le livre a poursuivi son chemin ?
Exactement. Alors pas forcément de manière linéaire. Comme tout le monde, j'ai fait le collège, le lycée, j'ai passé le bac, je me suis demandé vers quelles études me tourner, etc. Sans forcément penser au livre à ce moment-là. Et comme j'avais fait un bac économique, tout naturellement, je me suis dit, je vais m'inscrire en fac et je vais faire des sciences éco, parce que j'aime bien, et puis voilà. Sauf que j'avais imaginé, moi, qu'en sciences économiques, on allait surtout faire du social, s'intéresser à ce qui, moi, me passionnait dans ce domaine. Et en fait, dès la première année, je me suis rendu compte que je faisais surtout des mathématiques. Et que ça ne me passionnait pas, ça, par contre, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai assez vite décroché. Et je me suis complètement réinterrogé sur que faire... dans les enfin, vers quelles études je vais me tourner et puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en gros. Parce que c'est un peu les questions qu'on se pose à ce moment-là.
Et vous aviez quel âge à cette époque?
Et ben donc, j'avais le bac plus un an, donc j'avais 19 ans et demi à peu près. Je me souviens, c'était vers le mois de février où j'ai pris la décision « j'arrête » et je réfléchis. Donc, et en fait, c'est venu assez vite. C'est-à-dire que j'ai... À l'époque, Internet n'existait pas, évidemment, donc j'ai compulsé des revues de... Je crois que c'était l'ONICEP, l'organisme qui proposait aux lycéens à l'époque des catalogues de toutes les formations possibles et imaginables. Donc je suis allé au CDI du lycée où j'avais passé le bac, j'ai récupéré les trucs, et puis j'ai compulsé tout ça, et je suis tombé sur BTS Édition. Et alors là, ça a fait ressurgir plein de choses. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, quoi. Le livre, évidemment. Entre-temps, j'avais appris ce qu'était un éditeur. Donc, ça m'a parlé tout de suite. Et donc, j'ai postulé pour faire cette formation. J'ai été sélectionné. Donc, et puis voilà, et de fil en aiguille, entre cette formation BTS que j'ai poursuivie ensuite avec un master... à l'école Estienne, à Paris, j'ai acquis les compétences nécessaires pour travailler dans le milieu du livre.
Tout simplement.
Tout simplement.
Alors, une fois qu'on a acquis les compétences, une fois qu'on a le diplôme, on fait comment pour travailler dans l'édition?
Alors, moi, je vous parle d'un temps, c'était donc les années 84-85, où il était encore assez facile de trouver du boulot. On n'avait pas encore ces angoisses qu'ont nos jeunes aujourd'hui. Et donc, en fait, moi, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, quoi. J'ai postulé, j'ai répondu à quelques annonces, et ça s'est fait très vite. Donc j'ai trouvé un premier boulot dans une petite maison d'édition parisienne qui était en fait une filiale du groupe Caisse d'Épargne Écureuil, mais qui avait pour vocation de faire des livres autour du fiduciaire. Bon, c'était leur domaine de prédilection, évidemment. Mais aussi tout le matériel administratif dont une banque avait besoin à l'époque pour fonctionner. Ça allait de faire fabriquer des chéquiers jusqu'à les liasses pour ouvrir un CODEVI, un PEL, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait... J'ai à la fois travaillé sur le livre dans cette entreprise, mais également sur des tas de supports dont j'ignorais jusque-là la façon dont ça pouvait être fabriqué. Donc ça a été aussi l'occasion d'apprendre plein de choses.
Et alors ensuite, quel a été votre cheminement jusqu'à la création d'un autre regard ?
D'un autre regard. Alors, je suis resté donc dans cette entreprise quelques années. J'avais fait par ailleurs des passages... aux éditions Robert Laffont, les éditions du PSI qui n'existent plus aujourd'hui. Enfin bon, voilà, j'ai bossé dans différentes petites boîtes. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une structure toute petite, microscopique, qu'une femme avait montée pour faire des livres, mais un peu différents. Il s'agissait de faire des bouquins sur... Des très beaux palaces ou des très beaux bateaux qui accueillent du public, etc. Le tout truffé de petits reportages... excusez-moi, c'est mon téléphone. Hein, de petits reportages publicitaires pour des boîtes de luxe. Donc là, ça a encore été une expérience différente et qui m'a permis aussi là de faire du livre d'une manière un petit peu différente. D'accord. Est-ce que un autre regard vient de là? On le verra peut-être plus tard. Et donc, de fil en aiguille, j'ai progressé. Et donc, dans cette société, j'ai aussi fait de la communication.
D'accord.
Donc, ce qui me donnait une corde supplémentaire. Et puis, après, il y a aussi la vie privée qui fait que j'ai bougé. J'ai voulu quitter Paris parce que les années passant, je me retrouvais avec 3 enfants, donc des prix de loyer qui étaient plus du tout supportables et il fallait s'éloigner. Or moi, ce que j'aimais à Paris, c'était la vie parisienne. Donc je me disais, si c'est pour être à 40 km en banlieue, prendre le train le matin, rentrer le soir et puis ne pas profiter de Paris finalement, autant partir beaucoup plus loin. Et c'est le choix qu'on a fait avec mon épouse et qui nous a amené à Albi. Donc, et ça, c'était en 2000. Donc, vous voyez, ça fait 26 ans.
Et alors, vous êtes venu à Albi parce qu'il y avait une entreprise à reprendre ou c'est un choix de la ville, de la région?
Alors, c'est un choix de la région, en fait. Donc là, je vais rentrer dans des choses très personnelles. Mon épouse est prof. Donc, il fallait que ça passe par une possible mutation. À l'époque, moi, j'avais monté sur Paris une structure indépendante de communication. Donc, étant à mon compte, et par ailleurs, on avait acquis une petite résidence secondaire au fin fond du Lot. Bon. Donc, la région Midi-Pyrénées, à l'époque, nous paraissait être la bonne solution pour être pas trop loin de cette petite maison, et puis vivre autre chose.
D'accord, donc c'est le cheminement. Alors ce que je voudrais, c'est que nous allions maintenant directement à
l'essentiel,
surtout à cette maison d'édition. Vous la créez et d'emblée, vous avez un axe que vous privilégiez dans cette création. Qu'est-ce qui vous motive et quel est le chemin que vous voulez suivre avec cette maison d'édition?
Alors oui, je l'ai créée en 2004. Avec comme point de départ l'idée de faire des livres de photographie sur le patrimoine, les villes, ou l'art même, hein, pourquoi pas. Mais, et d'où le nom d'Un autre regard, qui porte un regard peut-être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je voulais par exemple pour la ville, puisque le premier bouquin a été un livre sur la ville d'Albi, l'idée, c'était de se dire, finalement, au lieu de montrer les monuments principaux que beaucoup de livres montrent, donc finalement, l'idée, c'était quand même de proposer une offre différente. Je me suis dit, quand on se promène dans une ville, la plupart du temps, on regarde ses pieds, si on est en déplacement parce qu'on va à un rendez-vous, ou ceci ou cela. Très rarement, les gens ont le regard porté vers le haut, et vers la curiosité de découvrir des petits détails, des choses qui passent devant tous les jours et finalement, ils ne le connaissent pas. Et donc, moi, mon idée, c'était de faire des livres qui proposent cet autre regard, donc une autre manière de regarder.
Alors, une autre manière de regarder dans la perspective de vendre, de distribuer des livres qui montrent les choses, c'est-à-dire des ouvrages qui montrent les villes, voire les campagnes. À quel moment vous avez décidé de dire que bon, il fallait rajouter autre chose et peut-être aussi s'intéresser aux romans et à d'autres types de
Alors, de finalement, livres. Assez vite. Hein, c'est-à-dire que donc ce premier livre sur la ville d'Albi, qui s'appelait « Volée de cœur, pour Dame de Brique », et qui était une espèce de déambulation poétique à travers la ville. Je me suis retrouvé, par la force des choses, à aller le proposer sur des salons du livre, à droite, à gauche, etc. Et souvent, sur les petits salons du livre, dans les villages, on n'a pas du monde non-stop, donc il y a des tas de moments un peu morts, où on discute avec le voisin, on échange, voilà, on passe, on découvre des gens et on sympathise. Et cette fois-là, c'était à Verfeil-sur-Seille, dans le Tarn-et-Garonne, j'avais en face de moi une autrice fort sympathique qui avait publié 3-4 livres et qui a engagé la conversation. Et de fil en aiguille, elle m'a dit « En ce moment, j'ai un projet, mais j'ai mon éditeur habituel. » Alors quand même, pour la petite histoire, cette femme, elle était publiée à Paris, chez ce monsieur dont le nom m'échappe tout de suite, mais vous allez peut-être pouvoir m'aider, un très grand de l'édition qui a travaillé pratiquement jusqu'à son dernier souffle, qui est mort il y a quelques années. Non, ça ne vous dit rien.
Ça va peut-être me revenir, moi aussi.
Bon, alors, peu importe, ça ne gênera pas nos auditeurs. Et donc, cette femme, elle avait proposé ce livre à cette maison d'édition, puisqu'elle y avait publié, entre autres, un très beau livre sur l'Algérie, qui s'appelle « Les Chardes ». Voilà. Et elle me dit, voilà, le problème, c'est qu'il n'en veut pas, parce qu'elle racontait, en fait, cette femme avait une fille qui avait... une carrière de comédienne et qui s'était suicidée. Et elle racontait cette histoire dans ce bouquin, donc qui lui était très personnel. Et lui, ça rentrait pas dans sa ligne éditoriale. Donc voilà. Et elle cherchait. Et elle me dit, et vous, un autre regard ? Justement, moi, ce que je fais, c'est aussi proposer un autre regard sur quelque chose. Ça pourrait pas vous intéresser. Et c'est comme ça que j'ai fini par publier ce bouquin. Donc elle me l'a remis ce jour-là, le manuscrit. Et puis quelques semaines après, je l'ai rappelé en lui disant « ça me plaît beaucoup et je suis partant ». Et c'est comme ça que j'ai élargi finalement
D'accord.
à la littérature.
Et alors aujourd'hui, vous avez combien de titres ?
Alors aujourd'hui, donc 22 ans après, il y a... écoutez, c'est pas compliqué, celui-ci, c'est le 301e. Qui sont donc au catalogue. Alors, pas 301 qui sont encore en vente et qu'on peut trouver, parce qu'il y en a qui ont été épuisés, sur lesquels on n'a pas forcément décidé de faire une réédition, etc. Donc, mais globalement, le catalogue, c'est 301 bouquins.
Ça donne un ordre de grandeur. Est-ce que vous pourriez nous préciser le nombre de publications en moyenne que vous faites, de nouvelles publications que vous faites chaque année ?
Alors, en fonction des années, ça peut varier de, pour les petites années, on va dire 7-8, mais c'est déjà allé jusqu'à 17-18 dans l'année.
Ah oui, c'est relativement important quand même.
Oui, ah, c'est, ouais, ça reste un...
Et est-ce que vous avez en tête un ordre d'idée du, comment dire, du tirage moyen pour chaque ouvrage ?
Oui, alors ça va dépendre en fait des secteurs. Ah, donc moi, chez Un Autre Regard, on a trois gros secteurs principaux. La littérature générale, qui recouvre à la fois les romans, les nouvelles, mais aussi des essais, des livres d'histoire. Donc voilà, c'est assez large dans le domaine de la littérature générale. Il y a tout ce qui est beaux livres, d'art ou de photos. Et puis, depuis maintenant bien 12-13 ans, j'ai développé aussi un secteur jeunesse. Donc... Évidemment, on va être sur des tirages complètement différents en fonction des cas. Si je prends des livres comme ceci, donc comme des livres, des petits romans, de la littérature générale, on est sur des tirages moyens. Alors souvent, c'est plusieurs tirages, en fait. Hein. Donc moi, je démarre toujours aux alentours de 300. C'est le tirage de base pour ce type d'ouvrage. Et quand le livre rencontre bien son public, on est allé jusqu'à des fois 3, 4 réimpressions.
D'accord.
Donc en roman, je dirais que les ventes vont aller de 400-500 jusqu'à un petit millier, 1200.
Voilà. D'accord. Alors on va y revenir peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'écouter votre première invitée qui s'appelle Suzanne. J'ai bien compris.
Tout à fait.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. J'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Et je t'accuse de Suzanne. Donc, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Jérôme Poite, fondateur des éditions Un autre regard, installé à Albi. Donc, je le répète, nous venons d'écouter donc Et je t'accuse de Suzanne. Pourquoi ce choix ?
Alors, vous m'aviez demandé de choisir déjà des livres dont j'avais envie de parler. Et des choix musicaux. Et j'ai trouvé... j'aime beaucoup ce titre. Hein, donc, j'ai tout de suite pensé à cette chanson. Et en plus, je trouvais qu'elle avait un lien certain avec le livre « Les caresses du vide » donc, dont nous allons parler.
Voilà, donc c'est le premier des trois ouvrages que vous nous avez amenés, « Les caresses du vide » d'Augustine Meursault. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce livre et cette autrice ?
Tout à fait. Alors, déjà pour commencer, préciser qu'il s'agit d'un premier roman pour Augustine. Hein, donc, comme... C'est toujours difficile un premier roman parce que on sait pas du tout comment le public va le recevoir et y a pas de passif, je dirais, enfin d'historique en tout cas, sur l'auteur. Donc on fait un peu un saut dans le vide.
Alors comment on fait justement l'éditeur? Quels sont ses critères de choix, surtout pour un premier roman? On peut imaginer qu'il y a un certain nombre de critères de choix bien établis pour quelqu'un qui a déjà pu publier, mais quand c'est un premier roman, comment on plonge?
Alors, y a plusieurs critères. Déjà, bon, le premier, c'est la qualité de la langue. Ça, c'est quand même primordial. Le sujet, qui n'est pas non plus à mettre de côté. Et parce qu'on peut tomber sur un livre qui est très bien écrit, mais dont le sujet est assez limité. Et donc, on peut se poser quelquefois la question, mais ça va intéresser qui ? Donc, et nous, on est quand même obligé d'avoir un minimum d'acheteurs pour faire vivre l'économie de ce livre. Donc, alors en l'occurrence sur Augustine, c'est un texte que j'ai reçu à un moment où j'avais un peu de temps. Ça joue beaucoup aussi hein, dans les hasards qui font que pourquoi on publie ça et puis pas ça, ou etc. C'est qu'on reçoit beaucoup de manuscrits et il y en a quelques-uns qui passent un peu à la trappe parce que nous restons des êtres humains et c'est difficile quand vous en avez reçu 50 sur un mois. D'arriver à tout ingurgiter. Donc, et puis, il y a ceux qui ont la chance d'arriver au bon moment, parce qu'il y avait un petit creux de vague, et qu'on a un peu de temps devant soi. Et donc, quand je l'ai reçu, ce qui m'arrive quand même assez fréquemment, c'est souvent par mail. Donc, j'ouvre le mail, et j'ouvre également la pièce jointe, et je regarde les deux, trois premières pages. Pour déjà me faire une petite idée et me dire... En gros, dans quelle pile je le range, parce que je sais très bien que je ne vais pas pouvoir tout de suite m'y atteler. Donc là, j'avais un peu de temps. J'ai fait comme d'habitude, j'ai ouvert, j'ai lu les 3-4 premières pages et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. C'est-à-dire que ce manuscrit, qui n'était pas énorme, je l'ai lu d'une traite au moment où je l'ai reçu.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'ai été happé par cette écriture dès les premières lignes. Je peux vous lire 3 lignes, par exemple, qui résument très bien le bouquin en plus. Tout semblait calme, mesuré, élégant. Il ne criait jamais, il ne forçait rien, et pourtant, elle s'effaçait.
Très joli.
Quand on lit ce genre de choses, on est un peu... on se dit, tiens, là, il y a matière, là. Il y a quand même... Il y a quelqu'un qui sait écrire et qui a réfléchi à l'écriture. C'était très travaillé. Ce que j'appelle des textes écrits à l'os, vous voyez, vraiment... Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas une virgule mal placée, et on est tout de suite embarqué dans un récit.
Est-ce que très rapidement, vous pouvez donner à nos auditeurs une idée de l'histoire qui est développée dans ce roman ?
Tout à fait. Augustine Meursault raconte l'histoire d'une femme qui vit une relation toxique avec un homme, et qui va progressivement être complètement anéantie par l'emprise que l'homme a sur elle, au point de quasiment disparaître.
D'accord.
Et on suit ce lent processus qui se met en place, presque à l'insu même de celui qui, entre guillemets, manipule. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'en fait, on se rend compte que dans les processus d'aliénation, comme ça, il y a beaucoup d'inconscient. La personne qui en est victime, mais aussi la personne qui persécute, entre guillemets, n'en a pas forcément conscience. Donc, et là, je trouve qu'on a un récit qui dissèque ce processus et ce phénomène d'une manière absolument implacable.
Merci beaucoup, Jérôme Poite, pour ce premier ouvrage, dont je rappelle le titre, Les caresses du vide, d'Augustine Meursault, dont nous entendrons certainement parler à l'avenir, à nouveau.
Très certainement. Elle participe en ce moment, et depuis un mois, à des rencontres en duo, en librairie, avec un autre écrivain et une autre maison d'édition. Donc c'est quelque chose qu'on... C'est les éditions Plan B, qui sont également une petite maison d'édition tarnaise. Et on a décidé de faire cette expérience, de présenter 2 ouvrages conjointement à 2 maisons d'édition dans des rencontres en librairie au même moment. Et donc les 2 auteurs qui se sont bien entendus se sont pris au jeu, ont même écrit un texte de duo qu'ils lisent et qui présentent leurs 2 bouquins, c'est une expérience formidable.
Et ces présentations ont lieu dans le Tarn ?
Elles ont lieu un peu partout. Il y en a eu une à Toulouse la semaine dernière, à la librairie qui s'appelle La Librairie d'ailleurs, oui. Que vous connaissez certainement. Là, la prochaine, je crois que c'est à Puy-Laurent. Et puis voilà, de fil en aiguille, mais ils vont jusqu'à Mouans-Sartou, dans les Alpes-Maritimes. Donc vous voyez, il va y en avoir à Montpellier, à Perpignan, enfin voilà.
Très bien. Alors Jérôme Poite, j'aimerais bien que nous revenions sur le sujet ligne éditoriale et sélection. Alors, vous nous avez déjà un petit peu expliqué sur un cas d'espèce, la manière dont vous pouviez sélectionner un livre... qui est finalement, qui conditionne la décision de le publier. Alors, auparavant, une ligne éditoriale, ça se construit une fois pour toutes ou ça, on la fait évoluer ? Comment ça se passe ?
Alors, dans une petite maison d'édition, c'est un peu mouvant quand même, hein, parce que on est sollicité et quelquefois, c'est des projets aussi qui vont nous faire évoluer. Vous voyez là... Pour vous donner un exemple, pas plus tard qu'avant-hier, on m'a proposé un projet de beau livre sur le Sri Lanka. Bon, a priori, moi jusqu'ici, j'ai fait que des livres franco-français. Et j'ai une collection qui s'appelle Regard de France, d'ailleurs. Donc vous voyez, bon, c'est quand même très ancré. Et cette proposition m'a fait évoluer en me disant « Et pourquoi on ne créerait pas Regard du Monde ?» En pendant, et puis ça pourrait être le point de départ. Donc voilà comment les choses peuvent évoluer. Alors, on reste quand même sur une ligne, mais... avec des évolutions possibles.
Des déclinaisons, finalement.
Et des déclinaisons, des apports nouveaux.
Alors, j'ai une question, là. Vous êtes donc, comme on dit, entre guillemets, une petite maison d'édition. Est-ce que vous, pour sélectionner les livres, au-delà de votre goût personnel, vous avez constitué un comité de lecture ?
Oui. Alors, j'ai un directeur de collection pour tout ce qui est littérature, qui est un auteur toulousain, qui s'appelle... Et là... Gérard Muller,
que nous connaissons bien à Parole d'auteur,
et donc qui a accepté de prendre ce rôle. Donc très souvent, alors c'est pas le cas à chaque fois, mais la plupart du temps, quand je reçois les manuscrits, moi je fais une première sélection, et cette première sélection je lui envoie. Donc ça fait une deuxième lecture. Quelquefois il m'arrive aussi d'avoir d'autres auteurs publiés chez Un Autre Regard qui m'ont dit « mais nous, on veut bien lire aussi et éventuellement filer un coup de main, etc. » Donc voilà, c'est pas un comité de lecture vraiment composé et toujours le même, mais c'est un groupe de 4-5 personnes sur lequel je sais pouvoir compter pour avoir un avis.
D'accord. Oui, donc vous vous adaptez en fonction des ressources que vous pouvez trouver autour de vous.
Exactement.
Très bien.
Sachant que un des critères fondamentaux, c'est justement d'être capable de dire « je peux publier quelque chose qui ne m'a pas plu ».
D'accord.
Mais qui a toutes les qualités requises pour être publié. Il ne faut pas que son catalogue, ça soit uniquement les lectures qu'on a aimées. Il y a des livres que je peux ne pas aimer... parce que il me touche, enfin le sujet ne m'intéresse pas, ou enfin j'en sais rien, mais qui par contre peuvent intéresser le public.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il vous faut cette capacité à prendre du recul en disant ce que je choisis, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le public.
Donc. Mais bien sûr, ouais. Et ça c'est primordial. Donc c'est souvent, il m'est arrivé d'accompagner des étudiants en lettres à la fac d'Albi sur un process qui s'appelle travail encadré de recherche, les TER. TER, c'est pas que le train. Et donc dans ces TER, moi j'intervenais une dizaine de fois sur l'année, sur des périodes de 3 heures. Et l'idée, c'était de les constituer justement en comité de lecture. Donc, j'apportais des manuscrits, ils les lisaient pour la fois d'après, ils avaient une grille de lecture, et on travaillait comme si on était un comité de lecture. Et je leur disais toujours, moi, je ne vous demande pas si vous avez aimé ou pas. J'ai besoin de critères beaucoup plus universels, on va dire, à savoir, est-ce que il y a un niveau de langue suffisant, est-ce que le sujet a un intérêt quelconque, même si vous, il ne vous intéresse pas, etc., etc. Pour justement être capable de publier... moi, j'ai publié des livres sur le rugby, par exemple, alors que le rugby m'intéresse, mais absolument pas. Mais parce que le livre avait un intérêt.
Donc c'est cette capacité pour un éditeur à détecter l'intérêt par rapport à un public, finalement, c'est
tout,
ça.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Jérôme Poit, je vous propose d'écouter maintenant une petite symphonie.
Des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre découverte de la maison d'édition Un Autre Regard avec son fondateur, Jérôme Poite. La symphonie des éclairs, Jérôme Poite. Quel oui. Choix, quel choix.
C'est un texte avant tout que je trouve assez formidable. J'aime beaucoup la manière dont elle le propose, sur un rythme un peu saccadé comme ça, qui lui donne toute sa force. Et je trouve qu'on n'est pas très très loin de la littérature finalement quand on entend ce genre de choses.
Vous n'avez jamais publié des recueils de textes de chansons ?
Non, alors c'est marrant que vous me posiez cette question parce que la chanson occupe une très grande place dans ma vie, puisque je chante moi-même, donc voilà, j'ai souvent eu l'occasion d'être là-dessus. Et il se trouve que mon mémoire de fin d'études d'édition s'appelait « Est-ce que tu entends ce que je vois ?» en référence à une chanson à l'époque de Jacques Higelin, et qui était en fait basée sur une étude dans le milieu de l'édition des livres qui publiaient des chansons. Et je m'étais appuyé entre autres sur la collection « Poésie et chansons » chez Segers, qui est un peu en déclin maintenant, mais à l'époque, c'était une grande collection. Et donc, j'avais fouillé comme ça un petit peu tous les domaines de la chanson et des textes. Donc, vous voyez, quelque part, ça aurait pu.
Ça aurait pu, mais c'est peut-être pas trop tard. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du second ouvrage que vous nous avez amené, qui s'appelle « La fugue de l'oranger » de Sally A. Sadek. Alors, dans ce cas-là, pour ce livre-là, ça a été quoi l'élément déclencheur, le coup de foudre? Comment ça s'est passé?
Alors, ça c'est un cas très particulier. Sally A. Sadek est amie avec Joël Fauré, qui est un auteur également toulousain, dont j'ai publié 3 livres, 4 même d'ailleurs. Et un jour, Joël m'appelle en me disant... J'ai une amie qui écrit et j'aimerais beaucoup que tu lises ce qu'elle fait, je trouve ça formidable, etc. Je lui dis, écoute, pourquoi pas, dis-lui de m'appeler. Donc elle finit par m'appeler, on prend rendez-vous, elle vient me voir à Albi, et elle vient avec des textes. Et effectivement, j'ai été très séduit par son écriture, mais je lui ai dit, bon, tout ça c'est bien, mais ça fait pas un livre. Parce que ça partait un peu dans toutes les directions. mais ça n'aurait pas fait non plus un recueil de nouvelles. Et puis je lui dis, quand on veut publier un premier écrit, commencez plutôt par un roman, parce que les nouvelles, c'est déjà pas un secteur facile. Mais si en plus on n'a pas un nom, on va en vendre 10 exemplaires.
Juste une petite question complémentaire. Quand vous dites ça partait un peu dans tous les sens, ça ne répondait pas à des critères. Est-ce qu'il y a des critères incontournables qui font que lorsqu'on vous remet un manuscrit, vous dites ça ne va pas le faire?
Oui, il faut, pour un recueil de nouvelles, les nouvelles c'est très particulier parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de lecteurs de nouvelles. Ce n'est pas un genre qui est énormément apprécié. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, un fil conducteur, qu'on ait du sens pourquoi tous ces textes viennent ensemble et sont réunis dans un recueil. C'est un peu la même chose avec la poésie. Un recueil de poésie, il doit nous amener d'un point A à un point B, nous faire voyager avec une intention. Bon. Et là, on ne sentait pas l'intention. Il y avait plein de textes sur différents sujets, mais qui vraiment auraient eu du mal, à mon sens, à cohabiter. Je dis par contre, si vous vous sentez, parce qu'il y avait un des textes qui était pour moi un point de départ qui aurait pu tout à fait devenir un roman. Je dis si vous vous sentez d'approfondir et de travailler dans cette direction, je pense qu'il y a quelque chose de possible. Bon, puis voilà, l'entretien s'est terminé, elle est partie, et puis voilà. Et en fait, presque un an et demi après, elle est revenue me voir avec La Fugue de l'Oranger. Donc elle avait suivi le conseil.
Et elle avait maturé peut-être
son texte. Et elle avait maturé le texte. Alors il avait encore des imperfections. Ça foisonnait. C'est quelqu'un qui foisonne beaucoup. Donc ça continuait de foisonner pas mal. Je pensais que ça avait besoin d'être un peu canalisé. Et là, je l'ai mis dans les mains de Gérard Muller.
Donc, elle était entre de bonnes mains. Alors, voilà. Vous pouvez nous dire rapidement de quoi parle ce livre ?
Oui. Alors, La Fugue de l'Oranger, en fait, c'est un roman d'autofiction, comme on les appelle aujourd'hui, dans lequel donc Salia raconte son histoire d'une petite fille qui est arrivée à Albi à l'âge d'un mois, en provenance d'Algérie, avec des parents, un père... qui est un peu dysfonctionnel, on va dire, et une mère qui est arrivée là sans parler un mot de français, et donc complètement perdue, et quatre enfants qu'il a fallu, tant bien que mal, faire pousser. Et Salia, donc la petite dernière et la plus petite à ce moment-là, qui, elle, va très vite comprendre que c'est une chance qu'elle soit là, c'est une chance d'aller à l'école, c'est une chance de tomber sur des enseignants ou des gens, des voisins, etc. Elle appelle tout ça les arbres de ma vie, donc les gens qui lui ont permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui, en fait. Et donc, on a tout ce parcours. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'elle a vraiment su en faire un roman, de dépasser juste sa petite personne pour lui donner une dimension relativement universelle.
D'accord. Et c'est donc également, donc, vous l'avez précisé, un premier roman.
Et c'est également un premier roman.
Alors je rappelle le titre, La Fugue de l'Oranger, de Salia Sadek, aux éditions Un Autre Regard.
Voilà, je peux juste préciser donc, que Salia Sadek est une autrice toulousaine, qu'elle est avocate au barreau de Toulouse. Donc elle a fait un très joli parcours depuis son arrivée à l'âge d'un mois à Albi. Et c'est vraiment une personne formidable et son livre a eu, pour l'instant, est très très bien reçu par le public, au-delà même de la région, puisque par ses origines, elle a pu le colporter jusqu'à Alger et il se vend dans des librairies à Alger. Voilà. Et elle a été invitée au Salon du Livre d'Alger, etc. Enfin voilà. Donc c'est une très jolie histoire aussi.
Nous souhaitons ardemment un bel avenir et un beau chemin pour cette autrice de premier roman.
Voilà.
Alors très rapidement, Jérôme Poite, vous nous avez gâté, puisque vous nous avez donné un troisième livre. Alors, un troisième livre qui est différent des deux premiers. D'abord, rien que le format, mais les auditeurs ne peuvent pas le voir. En quoi est-il vraiment différent ?
Alors là, on est sur un autre secteur, puisque chez un autre regard, il y a un gros tiers de la production qui est dédié donc à ce qu'on appelle dans notre jargon les beaux livres, hein, donc des livres de photos ou d'art sur des sujets. Alors moi, j'en ai sur le cinéma, j'en ai sur la photographie. Là, c'est un livre sur le patrimoine. Donc la collection dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Patrimoine et Territoire, et donc c'est le dernier né, qui concerne le Tarn-et-Garonne et qui sera en librairie à partir de début mai. Voilà. Donc j'avais envie de l'amener, parce que je l'ai reçu ce matin, en fait, et que je me suis dit, voilà, c'est l'occasion d'en parler.
Eh bien, écoutez, vous avez bien fait. Donc, vous pouvez repréciser le titre exact.
Alors, c'est Tarn-et-Garonne, Quercy, Rouergue et Lomagne. Photographie et texte de moi-même, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques ouvrages sur lesquels j'œuvre. Et donc c'est un grand format, hein, 28-28, 250 pages, tout couleur, avec à peu près 600 à 700 photographies pour présenter le plus largement possible le Tarn-et-Garonne, et avec toujours cette idée de l'autre regard, donc d'avoir... truffé au milieu des monuments les plus connus, des petites pépites que les gens ne connaissent pas forcément.
Jérôme Poite, alors je vais vous poser une question qui pourrait demander de longs développements, mais je vous demandais d'être relativement bref. Quel regard, globalement, vous portez sur l'évolution de la littérature contemporaine ?
Vaste question.
vous êtes rassuré par l'évolution ? Vous vous posez des questions ? Vous êtes déçu ? Vous attendriez mieux ?
Alors, non, je trouve qu'il y a quand même une bonne tenue de ce qui est publié. Ce que je pourrais peut-être déplorer, c'est la quantité. Je pense qu'on publie beaucoup trop. Mais peut-être moi le premier, hein. En édition, mais comme dans beaucoup de domaines, mais... Je dirais que là, on est sur un sujet qui est entre l'art, la littérature, etc. sont quand même des matières, c'est pas des pommes de terre ou des carottes. Et la logique économique de notre système fait qu'on est amené à produire. Hein, d'abord parce qu'on est dans un monde où il n'y a que la nouveauté qui compte, donc les choses deviennent obsolètes très rapidement. Dans le domaine du roman, entre autres, tout se joue sur les deux premiers mois. Hein, donc il faut, si on veut maintenir le chiffre d'affaires, il faut sans arrêt avoir des nouveautés. Mais c'est un peu un piège. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'édition a à réfléchir. Je crois que Plan B Édition le fait très bien, d'ailleurs, puisque eux, leur slogan, c'est la petite maison d'édition qui publie le moins possible. Mais c'est au-delà de la boutade, c'est pas inintéressant comme démarche. Et je pense que, globalement, il faudrait que le monde de l'édition y réfléchisse.
Est-ce que gérer et faire vivre une petite maison d'édition, c'est quelque chose de difficile, et est-ce que c'est quelque chose qui vous fait craindre l'avenir, ou vous dites de toute façon on y arrivera ?
Moi je suis d'un naturel assez optimiste, donc j'ai toujours tendance à me dire on y arrivera. C'est pas toujours le cas, mais globalement je pense que c'est indispensable de rester optimiste, sinon on s'arrête tout de suite.
Et il y a un avenir pour les maisons d'édition que l'on nomme indépendante ?
Alors, je dirais oui et non. Oui, si on arrive à gagner en visibilité, à être plus présent en librairie, mais pour ça, c'est un combat de tous les jours. Et puis, il y a aussi quand même, si vous voulez, tout ce qu'on peut faire autour pour faire connaître, etc. Et là, il faut faire preuve d'imagination.
Et en particulier, les salons du livre. Et vous vouliez nous préciser tout à l'heure que vous vous occupiez d'un salon du livre.
Tout à fait. J'ai lancé, il y a maintenant 9 ans, puisqu'on va faire la 8e édition, un salon du livre donc, qui s'appelle Grande Fête du Livre, Terre à lire, qui se passe à Albi tous les ans, entre fin mai et début juin, ça dépend des années. et qui a pour vocation de réunir dans un même lieu un maximum de petites maisons d'édition indépendantes d'Occitanie.
Très bien. Et cette année, ça a lieu quand ?
Alors, cette année, c'est les 6 et 7 juin 2026. Nous avons d'ores et déjà 31 maisons d'édition inscrites. Donc ça permet de faire quand même un salon conséquent, auquel s'ajoute une dizaine de stands d'auteurs indépendants, édités à compte d'éditeur, ça j'y tiens, mais qui sont des auteurs de la région, mais qui ont un éditeur à Paris ou à Rennes, enfin voilà, et qui ne pourraient pas être sur le salon autrement qu'en y venant en tant qu'invité.
Parfait. Merci beaucoup, Jérôme Poit, de nous avoir expliqué le cheminement de votre maison d'édition Un Autre Regard. Je rappelle les titres des ouvrages que vous êtes venu nous présenter, Les caresses du vide d'Augustine Meursault et La fugue de l'oranger de Salia Sadek, sans oublier votre ouvrage sur le Tarn, le Gers
et le Lot.
Et le Lot. Bien.
C'est vrai qu'il y en a trois.
Voilà. Merci aux auditeurs de leur fidélité. Merci à Coraline à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.